Depuis le début de mon remplacement, on a fait la tournée avec Alexis de toutes les équipes de la Ligue nationale et des mouvements que ces équipes ont fait au cours de l'entre-saison. Alors, je voulais qu'on termine en ce vendredi avec nos deux dernières équipes. On s'est donc gardé les Sharks de San Jose et les Hurricanes de la Caroline.
N'empêche que les Sharks sont intéressants, mais non,
c'est... C'est quoi les deux dernières, les deux équipes que tu classerais 31 et 32 au niveau de ton intérêt, toi?
Les Sabres, définitivement.
Ah ouais? Moi, je trouve qu'ils ont quand même des jeunes. Ça peut être... Ouais, mais
ça progresse pas. Devils, honnêtement, je pense.
Devils, c'est une équipe qui performe, mais on dirait que... Tu sais jamais...
Il y a rien de très intéressant à parler, là.
Il y a Jack Hughes, mais tout
okay,
ça.
OK, c'est
là,
tout.
Mais... Moi, tu vois, je suis pas encore embarqué avec le Kraken de Seattle tant que ça. J'aime le logo. J'aime le logo, j'aime la ville, mais on dirait que l'équipe, je me suis pas encore attaché tant que ça là, à leur parcours comme tel. Là.
Ouais, c'est bon, ça. Je pense que ça serait bon, ça. Devils, Kraken dans
ouais,
mes...
ça pourrait être que des choix. Ouais. Mais là, sachez qu'on va terminer avec les Sénateurs
on,
et le Canadien.
On s'en va pas là-dessus. Là, on s'en va dans ce qui nous rejoint le plus et ce qui s'approche le plus de nous, là, autant pour les auditeurs de Gatineau que nous ici à Montréal.
Ben, tout à fait, les Sénateurs et le Canadien, les deux équipes qu'on a le plus l'occasion de suivre ici. Bien sûr, le Canadien en premier, mais les Sénateurs aussi. On va faire le Canadien après la pause, mais là, allons-y avec les Sénateurs d'Ottawa qui jouent dans la section Atlantique et qui ont fait un beau pas l'an dernier en participant aux éliminatoires pour la première fois depuis les années de Guy Boucher là, en finale de l'Est. Je me rappelle, c'est la dernière fois qu'on y était allé avec cette finale
en 2017,
de l'Est. Cette finale de l'Est. Et là, on est allé en éliminatoire l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a fait au cours de l'entre-saison chez les Sénateurs?
On n'a pas fait de mouvements qui sont ressortis, là, qui ont rien à tout casser.
Mais on a sécurisé beaucoup de joueurs qu'on avait.
Ouais, exactement. Donc, commençons avec Fabian Zetterlund, lui qu'on a acquis lors de la dernière date limite des transactions en provenance de San Jose. Et lui, on l'a gardé, en fait, chez les Sénateurs là, pour les trois prochaines saisons, à un petit peu plus de 4 millions de dollars par saison. Claude Giroux également aussi, que lui, on sait, il y avait plusieurs rumeurs à son sujet s'il allait aller dans une autre organisation. Évidemment, il y a tout le temps des rumeurs à Montréal, peu importe le joueur qui devient agent libre, est-ce qu'il pourrait venir à Montréal? Il y avait eu des discussions sur Claude Giroux. Ben, finalement, il reste à Ottawa, lui qui voulait vraiment là, rester du côté de la capitale. Donc, un an, 2 millions pour Claude Giroux, qui est un contrat très raisonnable pour ce qu'il peut encore apporter à cette
équipe. Il voulait rester à Ottawa aussi. Alors, il va apporter tellement comme vétéran dans cette équipe-là. Ouais. Une équipe qui est encore en progression avec beaucoup de jeunes.
Ouais, je pense que l'apport des vétérans vraiment dans cette équipe-là n'est pas à négliger. Tu sais, les David Perron, les Claude Giroux, c'est pas mal les deux vétérans les plus expérimentés dans cette formation-là, qui justement viennent soutenir un peu le noyau de jeunes en place que là, vraiment, on a établi et qu'on décide de bâtir autour. Là, je pense qu'on a enfin notre noyau de joueurs clés et enfin, on voit un peu de positif là, parce qu'on se demandait à un certain point, est-ce que cette reconstruction-là va réussir ou on est sur le bord de l'échec parce que là, les séries, on n'est pas capable d'y accéder après quand même quelques années de Tim Stützle, Brady Tkachuk,
Jake Sanderson, Thomas Chabot.
Ouais, donc Drake Batherson et Dylan Cousins aussi qu'on a été chercher à la dernière date limite des transactions. Donc, je crois vraiment qu'avec ce groupe-là, on a quelque chose de solide en place et reste simplement à bâtir autour. D'ailleurs, on a justement décidé d'aller chercher l'harceleur sur le marché des joueurs autonomes pour un contrat d'un an. Donc, lui aussi vient apporter quand même une belle profondeur à cette ligne de centre qui est maintenant composée de Stutzel, Cousins, Shane Pinto et l'harceleur. Donc, quand même une belle ligne de centre, honnêtement, autant de la première unité à la quatrième. Et on a également été chercher Jordan Spence, un défenseur droitier chez les Kings de Los Angeles pour des choix de troisième et de sixième ronde. Le troisième, c'était au repêchage de cette année et le choix de sixième ronde va être au repêchage de l'an prochain. Donc Jordan Spence, lui aussi, qui va se greffer à une défensive qui devient de plus en plus intéressante quand même là, du côté d'Ottawa. Vas-y.
Non,
je te sentais que tu voulais intervenir, mais non, tu sais, on a justement Jake Sanderson, Thomas Chabot, Artem Zub, Nick Jensen, et là, Jordan Spence qui s'ajoute, Tyler Cleven aussi qui est avec ce groupe-là. Donc, une défense qui commence à, comme je le dis, là, à devenir assez intéressante.
Défense qui a perdu Dennis Gilbert, Travis Amonick en arrière, mais c'est pas nécessairement... Travis Amonick, c'est un bon vétéran quand même, là, mais il a été blessé à plusieurs moments aussi l'an dernier.
Ouais.
Au niveau des départs, il n'y en a pas eu. Non. Adam Godet a rendu quand même des services intéressants aux Sénateurs l'an dernier, mais j'imagine quand même les Sénateurs être capables de compenser sa perte. Là.
Oui, je pense que oui. T'sais, notamment, si on regarde les trois premiers trios, c'est assez garni. Il n'y a pas vraiment de place en fait pour un joueur comme ça, puisqu'on sait qu'on a ramené aussi Nick Cousins avec l'équipe. Michael Amadio, lui, qui risque de jouer un poste également sur le quatrième trio. Donc, on a une formation qui était assez complète. Évidemment, bon, on ne pouvait pas garder tout le monde à bord du bateau. Donc, oui, Adam Godet, lui, qui s'en va du côté des Sharks. Anton Forsberg aussi, lui, dans le filet, qui s'en va du côté des Kings. Et donc, ce qui veut dire, en fait, qu'on va faire confiance là, à temps plein à Levi Merilainen comme étant le deuxième gardien de cette formation-là, lui qui va seconder Linus Ullmark. Et Merilainen, qui a eu honnêtement des bonnes séquences quand même depuis son arrivée dans la Ligue nationale de hockey, a aidé les Sénateurs à aller chercher plusieurs victoires à un certain moment. Là, faudrait que je revérifie la séquence qu'il avait eue exactement, mais je sais qu'il avait connu quand même là, des bons moments avec les Sénateurs. Peut-être un petit peu plus difficile en fin de saison, mais tout de même, c'est un duo qui risque d'être intéressant chez les Sénateurs la saison prochaine. Donc, encore une fois, on a une belle équipe qui va retourner en série. J'ai fort bien l'impression. L'inverse me surprendrait beaucoup. Et je crois, là, justement, avec ce noyau qu'on a en place, qu'on essaie de bâtir autour, on peut enfin espérer à des meilleures années du côté d'Ottawa. Là.
Et il y a quelques joueurs que tu veux surveiller avec les Sénateurs. Et le premier que tu as identifié, c'est le même, je pense, que celui que c'est Dylan Cousins,
ouais.
Un gars qui est arrivé de Buffalo. On a quand même payé pour avoir Dylan Cousins. C'est un gars que j'ai adoré dans ses années juniors, en qui je croyais beaucoup. Je me dis, ce gars-là peut être, je pense, un vétéran qui... Ben, pas un vétéran, mais un leader plutôt, c'est le bon mot, qui va s'amener avec les Sabres. Et au final, ça a été un peu tiède là, après la saison de 68 points qu'il avait eu en 2022-23. Ça a régressé ensuite. Il a 24 ans maintenant. Et là, ben, c'est le moment pour lui de prendre de l'ampleur et de s'établir vraiment avec les Sénateurs. Là.
Ouais, Dylan Cousins. Moi aussi, c'est un joueur honnêtement que j'aime suivre depuis longtemps, depuis son parcours junior. On se rappellera de justement son parcours avec l'équipe canadienne au championnat mondial junior de 2021 où il avait amassé 16 points, oui, en 7 matchs. Il avait été complètement dominant pour la formation du Canada.
Une équipe qui avait perdu en finale finalement contre les États-Unis, mais après avoir eu un magnifique tournoi avec Devon Levi devant le filet notamment et une défaite en finale qui était restée marquée, mais Cousins avait été probablement le meilleur joueur de ce tournoi-là.
Oui, fort probablement. Et pour rappeler aux gens, là, la transaction impliquant Dylan Cousins, ben, il avait été acquis des Sénateurs avec Dennis Gilbert et un choix de deuxième ronde en 2026 pour Josh Norris, Jacob Bernard Docker et c'est ça en fait, Norris et Bernard Docker. Donc, c'est une transaction honnêtement que j'avais appréciée parce que du côté de Norris, on le sait, c'est un joueur qui malheureusement voit sa carrière être affectée par les blessures année après année. C'est un joueur en fait qui n'a jamais joué plus de 66 matchs dans une saison. Donc, je pense que c'est un pari qu'on était prêt à prendre du côté des Sénateurs. C'était un joueur qu'on allait chercher en Cousins, oui, bon, qui n'a pas connu autant de succès dans les dernières années. Il a connu une bonne saison il y a quelques années de cela. Et depuis, on attend encore là, une production offensive qui va égaler cette production à laquelle il nous avait...
Il a bien terminé, par exemple, quand il est arrivé avec
ça.
Ottawa. 16 points en 21 matchs, ça, c'est quand même c'est d'une augure intéressante, mais seulement 2 points en 6 matchs en série, par contre, dans la défaite des Sénateurs en première ronde.
Ouais, ben tu sais, je pense qu'en série, ça n'a pas nécessairement été facile pour tout le monde. On le sait, on tirait de l'arrière 3-0 face aux Leafs. On a réussi à aller chercher les deux matchs suivants, puis on s'est incliné finalement en 6, mais... Je pense qu'on peut tout de même pas lui reprocher là, ces 2 points en série. Je retiens surtout justement son succès qu'il a eu en fin de saison. Lorsque les Sénateurs étaient quand même dans une poursuite aux séries aussi, il était plus confortable que le Canadien, mais tout de même, il n'y avait rien d'assuré. Si on se mettait à échapper des matchs, ça pouvait glisser assez rapidement. Donc moi, je retiens quand même que Cousins, à ce moment-là, lorsque la pression était là pour les Sénateurs de gagner des matchs, il a su élever son niveau de jeu et a permis justement aux Sénateurs là, d'accéder aux séries. Donc pour Cousins, il reste encore quand même 5 ans à son contrat. Là, de 7 millions environ, donc ça pourrait être un joueur très intéressant, lui qui sera le deuxième centre de l'équipe.
Et Jake Sanderson également, tu l'auras à l'œil. On a longtemps cru que Thomas Chabot allait être le défenseur numéro 1 de cette équipe-là, il l'a été aussi, mais maintenant c'est Jake Sanderson qui est le maître à bord en défense pour les Sénateurs, sans rien enlever à Thomas Chabot, mais Sanderson est devenu le gars en défense pour les Sénateurs.
Oui, absolument, et je vois le temps qui file, donc on va quand même y aller plus rapidement, là, mais oui, non, c'est Sanderson, vraiment, lui, il s'est établi l'an passé annoncé comme étant le défenseur numéro un, le corps arrière de cette brigade défensive sur le jeu de puissance aussi. 57 points l'an passé, dont 11 buts. Il a terminé au 10e rang dans la LNH pour les défenseurs, pour les points chez les défenseurs, et au 2e rang également chez les défenseurs, mais pour les points en supériorité numérique. Donc ça, c'est pas rien quand même. Il y a seulement Cale Makar qui l'a devancé avec 35. Sanderson, lui, a terminé avec 30. Et si on regarde aussi le temps de jeu moyen par glace, il a été beaucoup utilisé, Sanderson, l'an passé. 24 minutes 27 secondes en moyenne par match. C'est bon pour le 13e rang dans la LNH chez les défenseurs. Donc plusieurs plateaux assez intéressants là, pour Sanderson l'an passé, lui qui est âgé de 23 ans.
Ben, ça fait le survol un peu pour les Sénateurs d'Ottawa. On va prendre une pause parce que là, on a besoin de se reposer. Il nous reste une grosse équipe là, à parler au retour.
On a beaucoup de choses à discuter au retour.
Ouais. Ouais, on va parler des Canadiens de Montréal. Évidemment, on a eu l'occasion d'en parler beaucoup depuis le début du mois de juillet, mais il faut faire les choses comme elles ont été faites. On a fait les 31 équipes. Alors, Alexis, de manière impartiale, va évaluer le Canadien de Montréal aussi par rapport à ces 31 autres équipes-là. On va s'arrêter quelques instants. T'es avec nous au retour, Alexis. Hey, on est de retour dans le Club du matin, 9h20. On est avec vous jusqu'à 9h54. La 32e et dernière équipe à surveiller est donc le Canadien de Montréal après avoir parlé des 31 premières. Habituellement, Alexis, je commençais en te demandant, est-ce qu'on a fait du mouvement à San Jose ou est-ce qu'on a fait du mouvement en Caroline? Alors, est-ce qu'on a fait du mouvement à Montréal, Alexis?
Eh bien là, ce matin, c'est certain que j'apprendrai pas, je vais rien apprendre à personne là-dessus, mais simplement pour faire le récapitulatif, oui, donc la transaction premièrement qui a retenu l'attention sur toute la planète hockey, c'est bien évidemment celle de Noah Dobson qu'on a acquis des Islanders de New York en retour de Emil Heinemann et des deux choix que le Canadien possédait au premier tour, qui sont finalement devenus Victor Ekelund et Kashan Aitchison du côté des Islanders.
On pourra avoir un vrai portrait de la transaction dans quelques années. Nous, voilà. On a déjà notre opinion ici, mais le portrait global, on ne le saura que dans peut-être 4, 5, 6, 7 ans.
Ben, c'est certain qu'à court terme, pour cette année, là, le Canadien est gagnant. Ça, il n'y a aucun doute. C'est de voir maintenant quel impact auront ces deux espoirs-là dans la formation des Islanders sur le long terme. Noah Dobson, lui, qui a signé justement d'ailleurs cette prolongation de contrat par la suite de 8 ans à 9,5 millions avec le Canadien de Montréal, donc devient automatiquement le joueur le mieux payé et qui, avec cette signature d'ailleurs, vient peut-être un petit peu briser la barrière que Kent Hughes avait établie de « on ne veut pas signer personne de plus cher que le capitaine ». Donc ça, cette règle-là vient un peu de prendre le bord, si je peux utiliser l'expression. Puis d'un autre côté, je pense que c'est une question de temps puisqu'on sait que Lane Hudson va être assigné après cette année aussi. Demida, vu, ça va être dans 2 ans. C'est deux joueurs qui vont commander de très gros salaires, fort probablement. Et ça aurait été très étonnant là, de les voir signer en bas de 8 millions de dollars, surtout en considérant que le cap salarial va augmenter de façon considérable lors des prochaines saisons. Donc, Noah Dobson qui devient le premier, la première signature du duo Kent Hughes et Gorton au-dessus du montant du capitaine. Sinon, bien évidemment, Zachary Bolduc, le Québécois qui s'amène dans un échange 1-1 avec les Blues de Saint-Louis contre Logan Mailloux. Transaction honnêtement que moi j'ai adoré, je sais pas pour toi là.
Ben je pense que c'était, j'ai trouvé ça dommage de voir Logan Mailloux partir parce que c'est un gars que je pense a un potentiel encore et j'ai pas démissionné sur lui, mais de voir Zachary Bolduc s'amener, c'est comme on a dit, c'est une transaction de besoin un
ouais,
peu.
C'est ça.
Il y avait une congestion à la défense, Mailloux voyait peut-être que les ouvertures se fermaient et la direction l'a vu aussi et c'est là que l'idée d'avoir Zachary Bolduc s'est amené, un gros attaquant quand même qui moi personnellement je pense va aller à l'aile, même si je sais que certains l'on parle de peut-être au centre. Je pense que ça va être un bon ailier et c'est un gars qui est content de venir jouer à Montréal aussi. Je pense que Saint-Louis est heureux d'avoir Mailloux et comme nous on est heureux d'avoir Bolduc. Pour le moment, j'aime cette transaction-là puis l'avenir nous dira pour la suite là.
C'est certain que du côté des Blues, on avait vraiment un besoin de défenseurs droitiers. On n'en avait presque pas en fait pour jouer dans la Ligue nationale et ceux qu'on avait ben, sont vieillissants. Donc d'avoir un Logan Mailloux, clairement ça va aider cette brigade défensive-là. Et du côté des Canadiens, eh bien évidemment avec l'acquisition de Dobson et là tu te retrouves avec un David Reinbacher qui lui, s'il connaît une bonne saison à Laval cette année, pourrait monter avec le grand club, peut-être même cette année jouer des matchs ou sinon ça va aller à l'année prochaine.
Je pense qu'il va jouer cette année, je sais pas si combien il va en jouer, mais
il va en jouer. Oui, ça c'est sûr et certain. Donc là tu te retrouves avec Reinbacher que tu prévois être le futur défenseur qui va venir épauler Noah Dobson sur le flanc droit. Et t'as déjà un Alexandre Carrier aussi. Donc oui, tu le mentionnais, Logan Mailloux, peut-être qu'il voyait des portes se fermer. Je pense que c'est une transaction qui fait beaucoup de sens pour le Canadien. Bolduc qui va apporter énormément de caractère aussi à cette équipe-là. Et on le sait, c'est le caractère complémentaire aussi qui peut mener loin en série. Là.
Joe Veleno, Samuel Blais, Kaapo Kakkonen, Alex Belzile, ce sont d'autres acquisitions qu'on a fait dans des, dans des buts différents, dans des objectifs différents, mais c'est quatre noms dont on peut parler brièvement aussi.
Ben, c'est certain que du côté du Canadien, on a quand même perdu aussi des Joel Armia, des Christian Dvorak, Michael Pezzetta, bon, OK, évidemment, lui, il ne jouait pas beaucoup, là.
Emil Heinemann.
C'est ça, donc Emil Heinemann, oui. Donc, c'est des joueurs de rôle, de quatrième trio, d'infériorité numérique aussi, qu'on a perdu. Donc, d'aller chercher, justement, des joueurs comme Sammy Blais, lui qui veut vraiment là, se réétablir dans la LNH après une saison complète dans la Ligue américaine, l'a dit, ça n'a pas nécessairement été facile pour lui sur le moral, mais tout de même, a gardé la tête haute, a connu une excellente saison, et lui est prêt vraiment à se battre, en fait, pour avoir un poste dans la Ligue nationale de hockey. Même chose pour Joe Veleno, lui, en fait, qu'on voyait déjà s'entraîner à Brossard depuis quelques semaines. Lui qui, finalement, s'est entendu avec le Canadien. Donc, des joueurs qui auront la chance là, de batailler au camp pour avoir des postes, puisqu'on le sait, des postes, il n'y en a quand même pas tant que ça non plus. Il y en a peut-être un qui va se... que je vois là, en regardant la projection de cet alignement-là, c'est Oliver Kapanen, lui qui peut-être est le plus à risque de perdre ce poste-là parce qu'il n'y a rien d'acquis dans son cas. Donc, un poste qui va être à se.
Il a fait de belles choses, Oliver Kapanen, et en éliminatoire à Laval, il était bon, mais je pense que ce gars-là a besoin un peu de millage à Laval, à mon opinion. Je trouve qu'on est peut-être un peu rapide à le voir déjà dans l'échiquier, de dire qu'il a un poste.
Moi, je suis d'accord
qu'il
avec
a un
ça
poste
aussi,
à Montréal. Et il est bon, honnêtement. Là. On le voyait en éliminatoire qu'il avait quelque chose parfois de plus que des coéquipiers. Alors, tu le voyais qu'il y avait une raison pour laquelle on l'avait amené à Montréal et pour laquelle il avait joué là. Mais moi, j'ai une petite pensée plus pour Laval, peut-être pour commencer, pour Oliver Kapanen.
Honnêtement, j'aurais aucun problème. Puis, justement, on a pas nécessairement, c'est pas comme si on était il y a deux ans là où on avait plein de trous à remplir dans l'alignement et on voulait permettre aux jeunes d'aller chercher de l'expérience, d'aller apprendre avec le grand club. Là, on est vraiment on est rendu à un stade où cette équipe-là doit compétitionner pour les séries. Donc, c'est pas nécessairement la priorité en ce moment d'apporter un jeune si on sent qu'il a besoin de développement encore. Et c'est pas pour rien que, justement, on a signé des Sammy Blais, des Joe Veleno qui vont pouvoir, eux, justement, combler un rôle de quatrième trio. Eux qui n'ont plus rien à prouver, en fait. C'est rendu pas nécessairement des vétérans, mais des jeunes joueurs quand même aguerris dans la LNH. Donc, j'aurais aucun problème, honnêtement, de voir Oliver Kapanen débuter. Tout va dépendre du camp d'entraînement fait que les joueurs auront. Là.
Jaden Strobel, qui a signé un nouveau contrat également de 2 ans. Jakub Dobesch a signé un contrat de 2 ans également. Kaapo Kakkonen, dans le filet, s'est amené. Alors, on a amené de la profondeur aussi devant le filet du Canadien. Ouais. Qui, selon toi, est le numéro 2 du Canadien pour commencer la saison?
J'ai hâte de voir la bataille au camp d'entraînement, mais selon moi, ça va être Jakub Dobesch, je crois. Je pense qu'il a quand même montré des belles choses avec le club l'an passé. Peut apprendre vraiment beaucoup, je crois, avec cette équipe du Canadien, à côté d'un Samuel Montembeau qui, lui, a appris aussi de grands gardiens de but. Donc, je pense que Jakub Dobesch, vraiment, sa place va être du côté de Montréal. On va donner le filet à Jacob Fowler chez le Rocket de Laval. On va lui donner beaucoup d'expérience. Et Kaapo Kakkonen, ben lui, c'est quand même un vétéran dans la Ligue nationale et dans la Ligue américaine. C'est d'ailleurs lui, quand même, qui a éliminé le Rocket lors des dernières séries. Mais lui va pouvoir aussi s'amener avec le Canadien si jamais, peut-être, Jakub Dobesch a des difficultés ou on souhaite peut-être justement le renvoyer à Laval ou quoi que ce soit. Kakkonen va pouvoir jouer autant dans les deux rôles, que ce soit comme auxiliaire à Laval ou à Montréal, mais selon moi, ça va être Jakub Dobesch pour commencer.
C'est une équipe qui va être encore jeune, le Canadien. Elle était jeune l'an dernier lorsqu'elle a accédé aux éliminatoires contre les Capitals de Washington et elle sera encore jeune. Il y a plusieurs joueurs là, qui ont été développés par l'organisation dans les dernières années et on commence à les voir vraiment prendre la mesure de leur talent au fil des dernières années. Évidemment, Suzuki, Caulfield, Goulet, Slavkas qui, là, on va avoir Demidov cette année, évidemment, qui va être toute une attraction à voir dans une saison complète. Dans les joueurs que tu as à surveiller, je vais te laisser y aller ensuite avec ça, mais vu qu'il n'est pas dans tes 4 joueurs à surveiller, moi, j'aimerais ça avoir ton ressenti sur Kirby Dach, comment tu vois cette saison-là pour lui, parce que moi, je pense qu'il est dans les joueurs à surveiller cette année pour Montréal, dans le terme de ceux que je vais avoir une attention particulière et que pour lesquels c'est une année très charnière là, dans leur carrière. Kirby Dach fait partie de cette catégorie-là.
Oui, c'est certain que quand on regarde le Canadien, honnêtement, il y a plusieurs candidats de joueurs à surveiller puisque c'est une équipe très jeune, comme tu l'as mentionné. Plusieurs joueurs qui en sont à des différents stades de leur carrière, dans leur début dans la LNH. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes joueurs principaux à surveiller, mais oui, définitivement qu'on va regarder ce qui va se passer dans son cas cette saison. Moi, personnellement, là, j'ai hâte de le revoir sur la patinoire. J'ai hâte T'sais, on a entendu plusieurs rumeurs au cours des derniers jours, là, des rumeurs qui circulaient comme quoi il aurait pris du recul dans sa réhabilitation. Finalement, on a démenti ces rumeurs par la suite. Écoute, moi, en bout de ligne, ce que je veux voir, c'est je veux voir des résultats sur la patinoire. Je veux voir Kirby Dack s'entraîner. C'est là que je vais me faire une meilleure idée que d'entendre des pourparlers à gauche et à droite de ce qui se passe dans son cas. Moi, ça m'importe peu. J'ai hâte de voir sur la patinoire qu'est-ce que Kirby Dack va être en mesure de faire, que ce soit au camp d'entraînement, que ce soit en match préparatoire, en début de saison, où on va le placer dans l'alignement aussi. Parce que là, on n'a toujours pas fait l'acquisition d'un deuxième joueur de centre. L'été n'est pas terminé. Kent Hughes nous a habitués à des transactions en plein milieu du mois d'août. L'an passé, on était en onde lorsque Patrick Laine s'est amené avec le Canadien tard à la fin de l'été. Écoute, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais pour l'instant, Kirby Dack est prévu comme étant le deuxième centre de cette formation à l'attaque. Et selon moi, je pense que c'est l'année de la dernière chance là, pour Kirby Dack. S'il y a encore des blessures dans son cas cette année, là, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup d'hockey raté au cours des dernières saisons. De la difficulté peut-être à suivre le rythme aussi que l'équipe essaie de développer année après année. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de Kirby Dack. Tu sais, c'est certain qu'il a connu des bons moments. Là, je ne me souviens pas, c'était il y a trois ans, je pense. Lorsqu'il avait joué à l'aile de Suzuki et Caulfield, c'est là qu'il a connu en fait ses meilleurs moments avec le Canadien de Montréal. Et depuis, ben, on le sait, ça a été très difficile. Écoute, s'il revient en pleine santé, j'ai confiance qu'il peut être meilleur que ce à quoi il nous a habitués au cours des deux dernières saisons, du moins pour les matchs qu'il aura pu disputer, parce que là, il va jouer...
Sa dernière année de contrat,
mais il va surtout jouer avec un allié qui s'appelle Ivan Demidov. Donc,
tu sais... Ah ouais, tu penses qu'il va être avec Demidov?
Je pense pas que Demidov va être sur la 3, là.
Non, mais est-ce que Kirby Dack peut être que sur la 3, lui?
Ben là, tu mets qui au centre de la 2?
Ben, on verra.
Ben oui, mais OK, mais c'est ça. Mais là, je te dis,
date d'aujourd'hui... Non, mais on parle d'hypothèse quand même. Okay. Oui, OK, en date d'aujourd'hui,
Kirby Dack joue au centre d'Ivan Demidov. En date d'aujourd'hui.
Ça apparaît probable.
Je pense que c'est probable. Donc, ouais. En tout cas, allons-y avec ce scénario-là. Si c'est le cas, ça va être le meilleur joueur avec lequel il va avoir évolué au cours des dernières saisons. Kirby Dack n'a jamais eu vraiment les meilleurs joueurs à ses côtés, sauf lorsqu'il a joué avec Caulfield et Suzuki. Lui, on le sait, on l'a déjà placé avec Slavkovski aussi. Ça n'a pas nécessairement cliqué entre les deux joueurs. Écoute, j'ai très hâte de voir son camp d'entraînement.
Je vais te laisser enchaîner avec les autres joueurs dont tu voulais parler.
On va y aller peut-être plus en rafale puisqu'il y en a quatre, mais évidemment, Ivan Demidov, je pense que j'ai pas besoin de faire de grandes explications. Ça va être le joueur qu'on va tous surveiller attentivement cette saison, qu'on a tous hâte de voir réenfiler l'uniforme. Écoute, il avait été tellement électrisant son premier match dans la Ligue nationale contre les Blackhawks. Je pense que c'est un match dont je vais me rappeler longtemps. Ça faisait tellement d'années qu'on n'avait pas eu un espoir de cette trempe-là du côté du Canadien. J'ai jamais vu, honnêtement, un tour d'espoir avec un aréna rempli. Là,
ouais, pour plafond aussi haut. Là.
non, c'est ça. Ça n'avait aucun sens, honnêtement, de voir à quel point les partisans étaient présents seulement pour son tour de patinoire des recrues. Donc, bref, écoute, lui, juste pour le rappeler, là, il avait quand même brisé le record de Kaprizov aussi pour les points par un joueur de moins de 20 ans dans la KHL. Lui qui a brûlé cette première année de contrat l'an passé. Donc là, il lui en reste deux. Mais évidemment, un joueur qu'on va surveiller. Le deuxième, ben Noah Dobson. On le sait, ça n'a pas été facile du côté de Dobson l'an passé. Là, beaucoup l'ont critiqué suite à sa saison de 70 points qu'il avait placé au 7e rang des défenseurs de la Ligue nationale. Il faut se rappeler que Noah Dobson, l'an passé, s'est sorti par la suite, mais avait une mauvaise entente avec l'entraîneur-chef Patrick Roy. Dobson a changé beaucoup de fois de partenaire de jeu aussi lors de la dernière saison, et on l'a même fait évoluer du côté gauche. Et Dobson, c'est un droitier, et on le sait que c'est beaucoup plus difficile pour un droitier d'évoluer sur le côté gauche que l'inverse. Donc, c'est peut-être aussi là, ce qui explique que ça a été plus difficile pour lui en termes de production offensive l'an passé. Mais je m'attends vraiment là, à une meilleure saison dans son cas. Je crois qu'il va rebondir. Devrait avoir un partenaire stable. Selon moi, le meilleur joueur avec qui le jumeler, c'est Caden Goulet, parce que si on le met avec Lane Hudson, c'est deux défenseurs à caractère offensif. J'aime mieux balancer les choses. Donc, s'il joue avec Goulet, ça devrait être une paire qu'on va essayer de garder très longtemps au courant de la saison, si ça fonctionne, évidemment. Mais d'avoir cette stabilité-là, et lui qui risque de piloter fort probablement le deuxième avantage numérique aussi, puis coaché par Martin Saint-Louis aussi, on le sait, lui qui a cette facilité, on dirait, à relancer les joueurs dans une carrière. Moi, je pense vraiment que Noah Dobson va rebondir cette saison. Par la suite, Zachary Bolduc, ben lui qui avait terminé 8e quand même au scrutin du Trophée Calder l'an passé avec un vote de 4e place, 17 de 5e place. Lui, évidemment, on retient ses 19 buts la saison dernière, mais on retient surtout ses 21 points à ses 28 derniers matchs. Il a été excellent en fin de saison pour les Blues et il a marqué 14 buts à ses 21 derniers matchs. Donc lui, c'est un joueur qui a beaucoup produit aussi sur le jeu de puissance, qui a un excellent tir. Plusieurs même ont dit qu'il avait l'un des meilleurs tirs de l'organisation à Saint-Louis, qu'on voyait même pas la rondelle partir de son bâton. Donc ça va être très intéressant à regarder. Le Canadien qui vraiment va être rendu avec deux unités de jeu de puissance plus qu'intéressantes la saison prochaine. Et mon dernier joueur que je surveille, ben Patrick Laine, qui est à sa dernière année de contrat. Lui, ça prend vraiment là, un rebondissement dans son cas, même s'il a marqué 20 buts l'an passé. Ça a déjà été très bien, je pense, dans les circonstances ce qu'il nous a offert. Quand même terminé au 4e rang de la LNH là, pour les buts en avantage numérique. Mais il n'a quand même pas disputé une saison complète depuis 2018-2019. Ça fait longtemps dans le cas de Laine. Et là, semble être en pleine forme. S'il n'y a pas de mauvaise blessure face au Maple Leaf dans un match pré-saison comme l'an passé, on devrait le voir disputer. Là. Je ne sais pas si ça va être une saison complète, mais du moins, il va disputer le début de la saison avec l'équipe. Et il a quand même eu aussi son plus faible total de temps de jeu moyen par match en carrière l'an passé. Donc là, peut-être qu'on va lui en donner plus cette saison. A vraiment l'air déterminé, Patrick Laine. Je pense que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça et sur la glace presque à tous les jours depuis quelques semaines avec notamment Evan Demidov. Il a l'air vraiment motivé là, pour aller dans cette nouvelle saison. Pour rebondir, honnêtement, je pense aller rechercher les succès qu'il a connus tôt en début de carrière. Et lui, ben, clairement, Patrick Laine, c'est un joueur avec, on le sait, un ego assez élevé. Un joueur qui a beaucoup confiance en lui et qui va clairement vouloir aller rechercher un gros contrat. Donc,
oui, parce que son contrat se termine cette année, évidemment, on le sait. Ce sera une grosse année pour Patrick Laine. Il doit rester en santé et avoir de bonnes performances parce qu'en éliminatoire, on ne lui faisait plus confiance
pas du tout.
À Patrick Laine. Donc ça a laissé quand même une impression particulière, même s'il avait marqué quand même 20 buts en revenant de sa blessure lorsqu'il est revenu au mois de décembre, début du mois de décembre, il me semble, là, lorsqu'il est revenu de...
Je pense que c'était le 3 décembre.
Ouais, quelque chose comme ça, lorsqu'il est revenu de sa blessure. Ben écoute, ça fait le tour un peu pour le Canadien. Il y a évidemment tellement de points d'emphase sur lesquels on peut aller, les avantages.
On peut aller n'importe où.
Ben oui,
là, j'ai parlé des joueurs à surveiller, mais évidemment, Slavkovski, est-ce qu'il va réussir à franchir un nouveau tu m'aideras avec le mot, là, mais un nouveau palier dans sa carrière, voilà. Lui qui, on le sait, est habitué de produire beaucoup plus en deuxième moitié de saison qu'en première moitié. Est-ce que là, il réussira à produire sur un rythme constant de 82 matchs? Est-ce qu'il s'établira comme un attaquant de puissance élite dans la LNH avec des saisons peut-être de 60-70 points? Est-ce que Suzuki va rester en haut du point par match? Est-ce que Lane Hudson va reproduire ses exploits de sa saison recrue? Il y a tellement de choses à surveiller chez le Canadien cette saison, mais on pourrait en parler pendant des heures si on embarquait là-dessus. Et je veux juste terminer peut-être rapidement là, en mentionnant quelques espoirs qu'on va pouvoir surveiller aussi. Jacob Fowler cette saison qui va avoir le filet numéro 1 chez le Rocket de Laval. David Reinbacher, lui qui devrait pouvoir enfin disputer une première saison dans l'organisation du Canadien aussi, donc ce sera intéressant de voir ce qu'il a fait. Florian Jacquet avait été l'un des meilleurs attaquants chez le Rocket l'an passé, à la grande surprise de plusieurs. J'ai très hâte de le voir lui progresser honnêtement, parce que je pense qu'il pourrait devenir éventuellement un solide attaquant sur un quatrième trio dans la formation du Canadien. Michael Hage, lui qu'on le sait, va disputer sa deuxième saison dans la NCAA avec Michigan, et peut-être pourrait venir rejoindre l'équipe en fin de saison si jamais les circonstances sont d'occasion. On le sait, Jacob Fowler est venu rejoindre le Rocket. Est-ce que Michael Hage pourrait le faire à la fin de sa saison? Ce sera à surveiller. Sinon, bien, les joueurs qu'on a repêchés au dernier repêchage, Alexander Zarovski, qui lui devrait retourner dans la MHL, LG Mooney, lui qui disputera une première saison dans la NCAA également, et quelques autres espoirs, mais bref, il y en a beaucoup.
Ben, tout à fait, le Canadien qui a toute une banque d'espoir à surveiller. Alexis, t'es passé à travers les 32 équipes de la Ligue nationale.
On l'a fait.
Là, il te reste, par contre, les prédictions de la section Atlantique. On va se prendre quelques minutes au retour. Je veux t'entendre et on veut savoir comment tu classes cette section Atlantique. Mais on a eu l'occasion de passer à travers les 32 clubs de la Ligue nationale